Dans le bassin de la Loire, la grève des mineurs est toujours totale.
Un grand soleil noir tombe sur la vallée.
Même situation dans l'industrie métallurgique qui emploie quelques 50 000 personnes.
La Société d'Histoire de Firminy et Radio Ondaine vous présentent l'histoire et la petite histoire de Firminy.
Oui, bonjour, Jean Vigo et Michel Duffy, nous voici de retour pour une nouvelle émission.
Aujourd'hui, une émission sur le sport.
Ah, le sport, Jean.
Oui, le parachutisme.
Ah, je vois, d'accord.
Le parachutisme...
En politique, peut-être.
C'est du sport, ça demande des nerfs.
Oui, tout à fait, absolument, oui.
Une certaine ténacité, et celui dont nous allons parler aujourd'hui, le parachuté Ernest Lafont.
Oui, c'est un des premiers maires parachutés sur Firminy, on en a eu d'autres par la suite.
Oui, je pense que c'était le premier.
Oui, il me semble que c'était le premier. Voilà. Alors, écoutez, après le match de l'OL hier soir, nous ne serons pas chauvins. Puisque nous allons parler d'un Lyonnais.
Oui, un Lyonnais, Ernest Lafont, qui eut l'idée saugrenue de se présenter à la mairie de Firminy.
Ah, mais alors dis-moi, pourquoi a-t-il été élu, là ? Un parachuté, c'est souvent difficile, hein ?
Alors, nous étions en 1912. Le docteur Bertaille, très populaire, mais... maire médiocre, a terminé ses 4 ans, car le bail est de 4 ans alors. Mmh. Il a un ennemi intime, c'est celui à qui il a succédé, le fameux Marcelin Souet. Ils ont passé les 4 ans...
Ah, ils se sont bien querellés, hein.
Ah, ils se sont querellés pour une histoire d'hôpital. Justement, le docteur Bertaille avait sa petite idée sur l'installation de l'hospice à la campagne, mais Marcelin Souet avait eu la sienne auparavant. Et il faut savoir que le fils de Marcelin, Marcelin Souet,
était lui-même médecin de l'hôpital.
Médecin de l'hôpital. Donc, il y avait une certaine concurrence, une animosité. Et cette mentalité, cet esprit a duré 4 ans. Et pour vous dire que le conseil municipal était déchiré en permanence de cris, de vociférations. Et les applous en avaient un peu assez.
Ah oui, alors c'est le troisième larron qui a récupéré finalement la mairie.
Et cet Ernest Lafont, c'était un total inconnu. Il était jeune, il avait moins de 30 ans. Hein, ça sera sûrement le plus jeune maire de l'histoire de la commune de Firminy. Il se présente et il profite
de ces triangulaires.
Il bat Ebertaille et Souet et il s'installe comme maire.
Alors...
Oh, faudrait peut-être dire...
Je vais quand même dire deux mots peut-être un peu de cette famille Lafont.
Voilà, parce que on le connaît. Enfin.
On connaît, oui, plus ou moins.
Oui,
Le fils du marchand de culottes, on peut dire, d'entrée. Hein.
Oui, parce que c'était ainsi que dans les chansons satiriques, on l'appelait.
On aura l'occasion d'en reparler.
On en reparlera.
On vous récitera quelques couplets. On ne les chantera pas aujourd'hui, il pleut.
Oui.
Ça ferait même pas venir le soleil. Alors, la famille Lafont, donc, qui est d'origine, le grand-père, en fait, vient des Pyrénées-Atlantiques, il était colporteur, et il va se retrouver à Lyon, où il va se marier.
Ouais, il trouve une belle lyonnaise.
Voilà, et l'année suivante, il va ouvrir un magasin de vêtements, sur Lyon.
Sur Lyon.
Il va avoir un fils, Adolphe Benoît va reprendre l'entreprise familiale et il va développer donc les vêtements. En particulier, il va être donc à l'initiative de la création du largeot, Jean.
Oui, le largeot, c'était le pantalon des charpentiers. Ce pantalon, tu sais, qui est très enveloppant, qui monte sous les bras. Pratiquement, tenu avec une solide paire de bretelles, un peu resserré vers le bas, et qui permettait, qui avait de grandes poches, et qui permettait au charpentier de tout porter sur lui.
Oui. Hein, et ils vont aller plus loin, même puisqu'après, ça va être la salopette.
Oui, la salopette.
Que nous connaissons.
Eh ben, c'est Coluche qui l'a.
Et les vêtements Lafont sont connus aussi dans le monde du travail pour habiller les ouvriers.
Il y a eu pendant longtemps, je pense qu'il n'y en a plus maintenant, mais j'en suis pas sûr, des vêtements Lafont à Firmini.
Oui.
Voilà, rue Traversière.
Et il y avait, je ne sais pas si j'en ai pas vu aussi rue de la Paix une période.
Non, il y a des vêtements de travail, oui, mais il n'y a pas l'enseigne là-bas.
Je ne sais pas, mais je ne sais pas si j'avais pas vu quelque. Enfin, bon, il y en avait à Firmini, effectivement, rue Traversière, ça
oui,
c'est sûr.
C'est sûr.
Donc le grand-père, le père et donc Adolphe Benoît va avoir deux enfants.
Oui.
Un va se prénommer Adolphe et l'autre Ernest.
Voilà.
Voilà notre Ernest qui est né. Et donc, parlons un peu de son frère. C'est son frère qui, en fait, va plutôt être à la suite de prendre la suite de l'entreprise.
Voilà.
Et Ernest, lui, n'est pas très motivé pour cette activité.
Non,
il va plutôt.
Il se destine à la profession d'avocat.
Ah oui, c'est.
Il fait des études de droit brillantes, d'ailleurs.
Oui, oui, il a très bien réussi.
Il a une certaine clientèle dans les affaires, mais aussi dans les histoires de crimes. Donc, il a une certaine réputation.
Oui, c'est un brillant orateur. On aura l'occasion d'en reparler.
Donc, pendant que son frère Adolphe s'occupe des pantalons, lui s'occupe du droit et des affaires. Et puis, il s'occupe aussi, accessoirement. Et on verra que c'est quand même été l'essentiel de sa vie politique. Il s'occupe de politique.
Oui, il va être très actif. On va évoquer plusieurs sujets à propos d'Ernest.
Alors commençons par son premier poste, celui de maire.
Alors vas-y, Jean, explique-nous un petit peu. Donc il arrive à Firmini, il est parachuté, il est élu.
Il est élu et, bien sûr, il ne connaît pas, comme tout bon Lyonnais, il ne connaît pas la région stéphanoise. Hein, et il ne connaît pas Firmini. Et qu'est-ce qu'il voit quand il aperçoit la ville, quand il la découvre, parce qu'il la découvre en même temps qu'il est élu, hein. Il découvre une ville ouvrière. Les ouvriers, c'est pas l'essentiel de la vie lyonnaise. Il découvre des ouvriers qui ont un goût assez prononcé pour le vin, pour la boisson. Il découvre une municipalité qui a été déchirée pendant 4 ans et qui n'a pratiquement pas bougé. Et lui, notre Ernest, c'est un homme énergique. Il n'admet pas l'à peu près, ni le laisser passer. Donc, il décide d'agir.
Ah oui, alors tu vas peut-être nous évoquer l'histoire du marché couvert et la bataille contre les marchands de fromage.
Eh bien, voilà. Alors, les marchands de fromage, ils vendaient leur production sur la place du marché actuel, telle qu'on la connaît. Mais depuis 1906... Marcelin Souet, vous voyez, on remonte, on a sauté une génération de maires. Depuis 1906, Marcelin Souet a construit sur l'ancien emplacement de l'école des Maristes un marché couvert en métallique, vous savez, le type Baltard, d'ailleurs construit par une entreprise
locale. Les établissements forts, on a eu l'occasion d'en parler assez longuement.
Oui, et c'était de leur projet.
C'était du costaud.
Toujours est-il, c'est que ce marché couvert est en place, on est en 1906, et Marcelin Souet arrive aux élections, il est battu. Il est battu pourquoi ? Il est battu parce que tous les commerçants de la place du marché ont monté le coup à leurs clients, tous les commerçants et surtout les cafetiers.
Les cafetiers, il faut bien le dire.
Parce que le fait d'installer le marché sous un marché couvert, rue Gambetta, c'est-à-dire à 500-600 mètres de l'actuelle place du marché...
Ils ont peur de fermer boutique. Hein.
C'est la ruine de leur commerce. Donc, on va tout faire... Et, ma foi, Marcelin Souet va commencer par perdre sa mairie. Bertaille n'est pas disposé à attaquer les commerçants frontalement. Donc, il va essayer de négocier un jour au marché couvert, un autre jour place du marché, pour contenter tout le monde et personne. L'Ernest Lafont, lui, il n'admet pas.
Ah oui, et puis d'ailleurs, ça va pas traîner, son intervention. Traîner.
Hein, il avertit.
En octobre 1912, hein.
Oui, 1912.
Rappelons qu'il vient d'être élu.
1912, il vient d'être élu.
C'est l'année de l'élection.
Il y a 3 mois. Il y a 3 mois qu'il est élu, il a averti, il a dit attention, ça ne va pas durer. Il s'aperçoit que les discours, les promesses n'ont absolument aucun effet. Et un beau matin, un beau jeudi matin, alors que le marché est en pleine effervescence, que l'on a déployé, mis ses toiles.
Tous les étals sont là.
Étals sont là. La gendarmerie, les dragons, ce sont les dragons qui arrivent avec leurs chevaux, et l'ordre est donné de foncer sur la place. Alors là, ça a été la débandade des fromages blancs.
Oui, la panique, la bousculade, des personnes renversées, oui. Des étals aussi.
Oui, il paraît même qu'il y a certains dragons qui ont eu sur leur dolmen quelques fromages blancs qui s'y sont écrasés.
Et oui.
Mais bon, toujours est-il, c'est que le jeudi suivant, plus personne sur la place du marché. Tout le monde était installé rue Gambetta dans le nouveau marché couvert. Et ça marchera du feu de Dieu, puisqu'il faudra attendre la démolition.
Eh bien, oui,
Claudius Petit. Autre parachuté.
Quelle idée, là encore. Les halles étaient pourries, ça allait s'effondrer. Oh, non,
qui perdra son élection municipale ben, oui. À cause de ce marché
c'est
couvert.
C'est curieux, encore. Quand même.
Ce marché couvert à
jouer. Oui, on l'a noté.
Voilà, donc ça c'est une des... Et puis alors, il avait une autre marotte, notre Ernest.
Alors, l'histoire des rideaux opaques. Allez, parle des rideaux opaques.
Alors, tout d'abord, il faut savoir qu'à Firminy, il n'y a jamais eu de maison close, officiellement. Les maisons closes, il fallait que le maire l'accepte, les maires ont toujours refusé. Pourquoi ? On ne sait pas trop, parce que ça apportait sûrement à la ville une mauvaise réputation. Toujours est-il, c'est que s'il n'y avait pas de maison close officielle, il y avait ce qu'on appelait des bars montants.
Oui, c'est-à-dire que l'activité se faisait en étage.
En étage. Il suffisait d'avoir ce qu'on appelait des bonnes, et les bonnes faisaient le racolage au pas de la porte du café. Et quand la nuit tombait, pour éviter les regards indiscrets, les cafetiers tiraient le rideau opaque devant les fenêtres, en prétendant, avec juste raison, que les clients qui étaient dans ces cafés étaient chez eux et qu'ils avaient le droit d'y trouver, comme chez eux, une certaine intimité. Et l'Ernest Lafont, lui, ne l'entendait pas de cette oreille. Il estimait que ces rideaux opaques favorisaient et la vente d'alcool...
Ah oui, parce qu'il était, tu vas en reparler...
Anti-alcoolique.
Et oui.
Puisqu'on lui a reproché de ne boire que de l'eau.
Un buveur d'eau,
bon.
Rendez-vous compte, à Firminy, ville ouvrière, voilà. Oui. Quelqu'un qui ne boit que de l'eau à l'époque, en plus.
Il paraît qu'il s'arrêtait aux fontaines, d'ailleurs, pour montrer l'exemple.
Bien sûr.
Toujours est-il, c'est que notre Ernest Lafont tient bon, et tous les soirs, alors il prend un arrêté, interdiction de baisser ses rideaux. Et bien sûr, les cafetiers étaient quand même plus de 200 à l'époque. Oui.
Comme par hasard, il continue avec les cafetiers. L'histoire des fromagements tout à l'heure, c'était les cafetiers qui étaient derrière aussi.
Voilà.
Et là,
c'est encore les cafetiers. Mais c'était une corporation très puissante. Hein.
Oui.
Donc les cafetiers vont tenir bon, ils vont continuer de baisser les rideaux, et Ernest Lafont, en têtu, va continuer à distribuer les procès-verbaux.
Ah oui, qu'il va loin, même. Il annonce qu'il y a à Firminy un débit de boisson pour 25 habitants.
Ça fait beaucoup,
200
ça
cafés, si on regarde, ça fait pas tout à fait le compte.
Ça fait pas le compte, non.
Il a bien exagéré, là.
Toujours est-il, c'est que, à coup de... Alors, les contraventions, c'était, si ma mémoire est bonne, 2 francs. Mais c'était 2 francs en 1912, hein, c'était des francs or, ça avait quand même une autre valeur que les francs en carton de 1945 ou de 1950. Donc, il va y avoir une révolte des cafetiers qui vont porter plainte. Alors d'abord, le juge de paix commencera par dire que le maire a raison, il a pris un arrêté, il s'y tient, et c'est bon. Mais les cafetiers vont aller encore plus loin, ils vont porter l'affaire devant le tribunal d'instance à Saint-Étienne, et là, eh bien, le juge va considérer que Ernest Lafont y a été un peu fort et qu'il a fait un abus de pouvoir.
Donc il est battu sur cette affaire-là, mais n'empêche que...
Nous sommes 1914.
Oui, oui.
On a d'autres soucis.
Tout à fait.
Que les fromages blancs et les rideaux opaques. Et donc, bon, l'histoire se terminera là.
Pour l'instant.
Pour l'instant. En tant que maire, eh bien, il sera mobilisé, lui, puisqu'il est jeune, mais il sera maire par intérim. C'est son secrétaire général qui décide, enfin, qui non pas qui décidera, mais qui servira d'intermédiaire. Et puis, il a perdu de son prestige. De toute façon, les élections suivantes ne se tiendront pas pendant la guerre. On attendra la fin des hostilités, 1919. Mmh. Et là, il ne se représentera pas. Il est d'ailleurs député. Il est devenu député
en 14. Il va être élu député. On en reparlera.
Et on va en reparler. Mais donc, de maire, ça s'en tient là. Donc, assez peu de choses, finalement, de positif.
Alors, comme maire. On va peut-être faire une toute petite coupure par rapport au déroulé. Et je me rends compte qu'on pourrait évoquer cette chanson populaire, comme c'était la coutume à l'époque, qui s'intitule « Le fils du marchand de culottes ».
Mais il faut savoir, avant que tu te lances dans une carrière de chansonnier...
Oui.
il faut savoir qu'il y avait un établissement à Firminy qui s'appelait l'Alcazar, qui était au mât. À l'emplacement d'un Lidl, c'est là, et qui accueillait des spectacles de qu'on appelait à l'époque le café-concert.
Ah oui. Et il y avait même eu Buffalo Bill, dit-on.
Ouais, il y avait même Buffalo Bill qui est venu tirer des ballons avec sa carabine et qui courait contre des cyclistes, et car c'était également un vélodrome. Et le fils du marchand de culottes, c'est-à-dire notre Ernest Lafont, il fut brocardé par des chansonniers locaux.
Voilà, comme il était coutume à l'époque. Alors voilà. J'ai oublié de vous parler du premier couplet de cette chanson tout à l'heure, en évoquant la famille Lafont, et ça vous donnera une idée de ces chants de l'époque. J'en reprendrai un petit peu par rapport à d'autres couplets sur l'anti-alcoolisme et les maisons closes. L'Ernest, pour Bibi, c'est un frère. Pourtant, je suis un type qui n'a pas de sous. On le dit plusieurs fois millionnaire. Moi, mes fonds de culottes sont pleins de trous. Il dit en me voyant, ce chic type, « Cours bien vite au dépôt Lafont. Tu leur y diras qu'on te nippe, qu'on change ta culotte qu'a plus de fond. »
Alors après, il y avait un refrain, bon, voilà l'Ernest qui passe, quel chic, etc., etc., quel chic il a sous son chapeau, ah, oh, qu'il pose avec grâce quand il est en auto. Bon, et puis un deuxième couplet, alors là, ça attaquait l'anti-alcoolisme.
Oui, nettement. Hein.
Alors, il faut savoir une chose, c'est que les cafés étaient bien sûr violemment contre lui, mais il avait quand même des alliés. Hein, par exemple, l'historien local Albert Boissier était profondément anti-alcoolique et faisait partie de cette association anti-alcoolique de l'Onden qui essayait malgré tout de faire triompher ses idées. C'était pas facile. Hein. Alors voilà par exemple le deuxième couplet qui parle de cette tare de notre région. Mais comme mes parents ne sont pas riches, un jour, rencontrant mon poteau, il me fit coller ses affiches. Mais tu sais, pas de vin, ne bois que de l'eau. J'allais tout de même pas boire à l'Onden, c'est plein de microbes, de vases et de poissons. Puis je lui dis, mon vieux, la fontaine, ça vaut pas les débits de boissons. Voilà. Donc vous voyez, avec ce que l'on vous a raconté, l'alcool, et puis...
Ah, le troisième couplet, Jean, il est quand même pas triste par rapport aux maisons closes.
Eh bien, l'autre jour, j'ai fait connaissance d'une petite bonne d'un café rupin, elle me dit, mais en confidence, il est donc en bois ton copain? S'il veut me payer un peu de galettes, du champagne et des petits gâteaux, il peut venir dans ma chambrette. Pour lui, j'enlèverai mes rideaux. Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y a quand même une phrase, il est donc en bois ton copain. Il a eu la réputation, alors c'était un homme qui arrivait, qui était peu connu, assez bien mis, peut-être un peu efféminé, qui n'aimait pas l'alcool, pas le vin, donc c'était pas un homme. Hein, à l'époque, c'était un homme qui
buvait le vin. Oui, tu bois bien un canon.
Hein, et il est en bois, ton copain. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? ça veut dire qu'il a peut-être... il est peut-être transgenre, c'est un mot à la mode.
Oui. Mais,
alors, en réalité, qu'en était-il de l'état civil d'Ernest Lafont ? Mais Ernest Lafont, il était marié. Alors, est-ce que c'était un vrai mariage ? Oui, il était marié avec une révolutionnaire ukrainienne qui avait un nom assez difficile à retenir.
Je l'ai appris, vous le réciterai. Zinaïda
Gogunsva.
Gogunsva.
Voilà. C'était une Ukraine.
Mais on aura l'occasion d'en reparler dans la mesure où il va être député.
Allez, on arrête avec le maire. Hein, et
oui,
sur,
oui. Donc c'était la première partie de notre Ernest Lafont à Firminy. Voilà. Maintenant, il est en 14 élu député. Il va être élu député.
Oui.
Et donc il va... comme tu disais, c'est un politique quand même.
Oui.
Et très rapidement, il va le montrer. Il va se retrouver, donc, il va se marier. D'abord, tu viens de le dire, avec donc cette Ukrainienne, qui était d'ailleurs la femme d'un sénateur, le sénateur Lagardelle.
C'est ça.
Donc, il va...
Je ferai une parenthèse sur ce Lagardelle,
oui,
qui était à l'époque socialiste, car on n'a pas dit, mais Lafont, tout riche qu'il était déjà socialiste. Il était socialiste,
ah ben oui, quand
socialiste.
On regarde ses déclarations d'intention au niveau de la députation, on comprend tout de suite.
Et je continue sur
Lagardelle,
qui était sénateur socialiste. D'ailleurs, ils se connaissaient, ils étaient amis. Il lui a pris sa femme, enfin pris entre guillemets, et ce Lagardelle a eu un rôle, je ne sais pas s'il était ministre, mais il était très proche de ça, sous Pétain.
Oui, en 1940. Mais c'est peut-être là où ils vont retrouver, on en reparlera.
On en reparlera.
Oui, oui. Donc là, en particulier en 1917, au moment de la révolution russe, Lafont, en tant que député, va faire partie d'une mission.
Oui.
Qui va accompagner le ministre Albert Thomas, qui est connu dans l'Onden, puisqu'il est venu à l'époque au niveau des usines métallurgiques, etc. Et ils vont aller à Petrograd, c'est-à-dire Saint-Pétersbourg, où ils veulent essayer de convaincre les révolutionnaires de cette issue de cette révolution de 1917.
Octobre 17.
Oui. Octobre 17. Les convaincre de continuer à soutenir les alliés, rappelons-le, on est pendant la guerre de 14-18, et donc la crainte que nous avons en France et au niveau des alliés, c'est de voir cette Russie qui a changé de gouvernement, qui a changé de régime, s'éloigner et ne plus être solidaire des alliés.
Ce qui permettrait aux Allemands de rapatrier sur le front occidental toute l'armée qui est occupée à combattre contre les
Russes. Et voilà, alors déjà qu'il y a eu pas mal de massacres...
Oui, on craignait que ce soit la bascule de la guerre.
Ah oui, ça pouvait être, mais ça pouvait peut-être bien être la
bascule. Mais oui, heureusement que les Américains sont arrivés.
Mais bien sûr.
En 17,
et oui.
C'est la même année. Ça a compensé.
Ça a compensé, oui, surtout parce que, pour conclure sur cette brillante intervention en Ukraine... En Russie, pardon, eh bien, elle s'est terminée par un bel échec.
Oui, on leur a même montré la porte.
Oui.
Et ils ont failli finir au goulag.
Ben oui. donc, ils sont revenus de leur mission, et c'est là qu'il va continuer sa carrière politique en France. Il va adhérer, avec son épouse d'ailleurs, parce que c'est elle qui est aussi très, très politisée.
Très politisée.
Ils vont adhérer au SFIC, ce qui va devenir par la suite le Parti communiste.
Oui, alors il faut savoir que, justement, c'est en 1920 que tout ça va se décider.
Ben oui, congrès de Tours.
Congrès de Tours, donc c'est là où les socialistes...
Ils y sont, ils en font partie.
Ils en font partie et ils font partie de la majorité qui décide de quitter
le
Parti socialiste,
voilà,
de faire scission.
De faire scission, et il va même être élu dans la Loire, et secrétaire fédéral départemental.
Ah oui, c'est pas rien.
Donc c'est quelque chose.
Donc Ernest Lafont... Le fils d'un capitaliste comme ce marchand de culottes, qui devient secrétaire fédéral du Parti communiste de la Loire, il faut le faire.
Oui, mais je ne sais pas si ça aussi, ça ne va pas entrer un petit peu dans la balance par rapport à ses prises de position par la suite.
Oui, mais on va s'apercevoir, et les communistes aussi vont s'apercevoir bien vite qu'il y a quelque chose qui ne cadre pas. Ernest Lafont à la tête du PC dans la Loire, bien vite...
En plus, il s'oppose au congrès de Moscou, le 4e congrès de Moscou.
Et puis, il y a l'histoire de société secrète où...
Oui, il est franc-maçon.
Il est franc-maçon, donc...
Ça ne plaît pas trop, ça.
Ça ne plaît pas.
Donc, il est membre aussi de la Ligue des droits de l'homme.
Voilà, donc, ce qui fait que Ernest Lafont...
Ils sont entiers, quand même, le couple, là. Ils vont refuser de se soumettre. Voilà. Donc, à l'époque, c'est connu, on ne se soumet pas, expulsion.
Il serait russe, il terminerait au goulag.
Oui.
Là, ils sont expulsés. Et on est à peu près à l'époque où un autre apelou va subir le même sort. On en a peut-être parlé ici.
Non, on n'en a pas parlé, mais ça serait peut-être le sujet...
Ça sera peut-être intéressant d'une prochaine émission, Kem.
Oui.
Le fameux Kem,
qui a eu quand même un rayonnement national. Au niveau communiste.
Et qui était professeur au lycée Jacob Holzer.
Ah oui, mais on pourrait parler de ces professeurs du lycée Jacob Holzer.
Oui, il faudra en parler. Il y en a eu plusieurs qui étaient très intéressants.
Dénommé Roux, par exemple.
Oui, puis Xavier.
Le maire de la Libération.
Oui.
Voilà, à la Libération. Voilà, donc, c'est un échec, donc ils sont exclus, du Parti communiste, on est en 23, mais comme ils ne sont pas prêts de s'arrêter en politique, ils vont continuer, et ils vont militer à partir de là, à la SFIO, et ils vont être...
Ils vont rester quand même députés.
Oui, mais il est dans un parti aussi qui s'appelle le Parti Socialiste Communiste.
Oui, c'est des partis charnières qu'on appelle, sous la Troisième République et sous la Quatrième, étaient composés de 3 ou 4 personnes, députés, qui étaient utiles, indispensables.
C'était les quelques voix qui manquaient pour
arracher faire une majorité.
Et bien sûr.
En contrepartie, ça leur donnait droit souvent à un poste de ministre.
Eh bien, bien sûr. Voilà.
Donc, c'est ce qui va lui arriver.
Oui, parce que en plus, là, côté russe, Trotsky s'est révolté là aussi.
Oui.
Et donc, il dit même que c'est un contre-révolutionnaire, etc. Donc là, de ce côté, c'est fini pour lui. Donc, il va se retrouver à la SFIO, gros, de 28 à 1932.
Oui.
Et il va terminer... Au niveau, député, au Parti Socialiste de France,
PS,
de 32 à 36.
Voilà. Alors, il faut savoir qu'il a eu un cheminement assez tortueux. D'abord, il est resté député de la Loire jusqu'en... Alors, il avait commencé en 14.
Ah ben oui, il a fait 22 ans, je crois.
14 à 28. 14 ans de député de la Loire. Et puis, en 28, il n'a plus trouvé sa place dans la Loire. Il est parti dans les Hautes-Alpes. Et il est resté député de 28 à 36, tout en cheminant, en passant du Parti communiste en 1920 jusqu'au Parti socialiste de France en 1935, au moment où, à cause de ce côté indispensable pour faire une majorité, on fait appel à lui pour devenir ministre. Alors, c'est un...
Il a eu une belle trajectoire quand même, tu dis. Il est parti de la gauche de l'Assemblée, vraiment de la gauche de l'Assemblée, pour terminer à droite, pour pas dire... Bien droite.
Bien à droite, oui.
Bien à droite.
Tout en ayant malgré tout des idées...
Mais tu en parleras, je pense.
Ouais.
Parce qu'il a pris de nombreux décrets...
En 1935, tout d'abord, il devient ministre des sports et de la santé. Ça s'appelait peut-être pas tout à fait...
Éducation physique et santé publique.
Et de la santé publique. Il va d'ailleurs à ce poste, il y restera assez peu parce que c'était des ministères, comme on vous l'a dit, qui étaient composés...
Ça sautait vite. Là.
Ça sautait vite, voilà. Donc il va appartenir au ministère Buisson, qui était un gouvernement de droite. Nous sommes en 1935. Il va rester 6 mois ministre. Et puis, à la fin de 1935, il va appartenir au gouvernement suivant, tenu par, tenez-vous bien, Pierre Laval. qui n'est pas un, qui n'a jamais été un homme de gauche. Et il va rester ministre à la même poste que précédemment. Il aura, c'est lui qui va créer l'école de Joinville, l'école des sports. Entre parenthèses, il va utiliser sa nièce, qui était une sportive, et l'ami de sa nièce, pour lui donner des idées. C'est en grande partie grâce à cette famille, à sa nièce et à son ami, qu'il va avoir ses idées sur l'éducation physique, etc. Je vous signale aussi en passant que Radio Lyon a été créée à cette époque et que sa nièce également y a joué un rôle important de speakerine. Bon, ça c'est une petite histoire de famille. Voilà. Donc en 1936... Il est resté ministre 8 mois. C'était la durée moyenne d'un gouvernement à l'époque, hein, ni plus ni moins. Et après 1936...
Oui, mais je pense qu'on peut quand même évoquer les nombreux décrets-lois qu'il a pris, parce que vous allez être surpris de voir de quoi il s'agit.
D'accord. Non. Alors, si on... Oui, alors, on peut vous les...
Oui, parce qu'ils sont intéressants.
Alors, l'extension de la protection sociale aux salariés, à certaines branches de l'agriculture, de l'hôtellerie, des employés de théâtre, y compris aux salariés étrangers. Les congés maternité, qui furent portés à 12 semaines.
Doublé donc. Hein.
Doublé, 6 plus 6, oui. Un octroi de prestations est mis sur pied d'une assurance vieillesse à partir de 60 ans. Fut également créé, pendant son mandat, un conseil supérieur des assurances sociales. Le nombre de dispensaires antituberculeux et antivénériens qui augmente de façon sensible. Donc, vous voyez, il n'est pas resté inactif, mais c'était un homme énergique, mais souvent, ses idées allaient plus vite que les faits. Ouais, mais c'était quelqu'un qui était soucieux du bien public. Alors,
après donc son bref passage comme ministre,
je voudrais revenir avant de, parce que là finalement il devient ministre et puis tout d'un coup terminé. On pourrait dire deux mots quand même sur. On a dit que c'était un homme qui était habile, qui était craint. Il craint
Mais bien sûr, on pourrait parler de ses interventions à la Chambre.
À la Chambre.
Les ministres ne craignaient pas trop quand ils prenaient la parole.
Alors, Pam, je peux vous citer le cas d'Ernest Laffont, qui avait la réputation non usurpée d'être un député de grand talent. Donc, le président du Conseil s'appelait Poincaré à l'époque, qui était un grand nerveux. Il craignait comme la peste, et Ernest Laffont, et son premier soin en s'asseyant au banc du gouvernement, c'était de s'enquérir de la présence d'Ernest Laffont dans l'hémicycle. Ayant mis un jour en doute la sincérité du président, celui-ci se fâcha tout rouge, ce qui lui amena cette réponse du député « Monsieur le président est probablement de bonne foi ». Ce qui sous-entendait qu'il ne l'était pas trop. Alors bien évidemment, ça a fini de le déstabiliser. Une autre fois, alors qu'il hachait de ses interventions le discours du ministre qui s'appelait un dénommé Charles de l'Astérie du Saillant, le ministre excédé de ses interruptions fréquentes se tourna vers lui et lui lança « Je sais ce que je dis !» Et le député Laffont de répond « N'exagérons rien. »
Oui, c'est un esprit donc vif et caustique.
Il est bien évident que pour un nerveux...
Il en déstabilisait plus d'un.
Voilà.
Alors, il arrête d'être ministre, mais il va continuer une activité. Il va revenir à sa première profession, non, Jean ?
Eh oui, il va revenir à sa profession d'avocat. C'est-à-dire qu'il va replaider... Pour des grandes causes. Alors, j'en avais trouvé une dernière intervention qui s'était soldée par un procès retentissant. Il y avait eu des chauffeurs. Vous savez, les chauffeurs, ce sont ceux qui vous chauffaient les doigts de pied pour faire avouer.
Où était le magot ?
Où était le magot ?
Dans l'armoire.
Dans l'armoire, voilà. Et nos bandits de grand chemin ont été arrêtés. Il y a eu un échange de coups de feu. Il y a eu deux morts, d'ailleurs deux gendarmes. Et... mais je vois...
Oui, que les gangsters de l'abri, là, en
38. Les gangsters de l'abri, voilà, donc, qui ont été défendus par Ernest Lafont, à l'époque.
Ouais. C'était quoi ? C'était trois jeunes, Bébert, Pierrot, et un Autrichien, sous le nom de Prince, qui rançonnait les fermes isolées, comme vient de dire Jean, et ça se passait dans l'abri.
Voilà, donc, et brutalement... après, donc, 36, donc, il s'occupera de procès, et on n'entendra plus parler de lui. Ce sera le silence radio, et il mourra...
En 46.
À la fin de la guerre, en 46. Alors, on peut se poser une question, c'est que en 1936, il abandonne. Pourquoi a-t-il abandonné ? Ça aurait été intéressant. On n'a jamais trouvé le pourquoi, parce que est-ce qu'il a senti qu'il y avait un glissement et que s'il continuait...
C'est possible, parce que ses idées étaient... Il avait quand même des valeurs sociales.
Oui, mais les valeurs sociales, mais il y en avait d'autres.
Il n'était pas prêt à les défendre dans un gouvernement de droite qui se mettait en place.
Voilà, donc quand on voit par exemple ce que sont devenus d'anciens communistes qui ont suivi cette pente
pendant la guerre,
et qui ont continué pendant la guerre, on pourrait imaginer que s'il n'avait pas eu la sagesse de s'arrêter en 1936, il aurait pu être compromis dans des... gouvernements sous Pétain, sous le régime de Vichy. Hein, donc il y a quand même une certaine sagesse et un bon sens dans de sa part. Voilà l'histoire d'un parachuté.
Je terminerai peut-être par le quatrième couplet de la chanson.
Oui.
L'Ernest tient l'édile prolétaire pour un être qu'un rien éblouit. Ayant le droit, celui de se taire, d'admirer et voter sans bruit. Autrement, l'Ernest devient terrible. Mais en somme, il n'est pas méchant, car s'il prend un copain pour cible, la galerie passe un bon moment.
Voilà. Donc, un personnage, peut-être qui, à cause justement des humoristes et des chansonniers de l'époque, était un petit peu galvaudé, on s'en est moqué. Bien sûr, il y a eu la guerre qui a... tout fichu en l'air, qui a faussé le jeu, je dirais, mais c'est un personnage qui méritait mieux que des ricanements.
Ah, je pense, oui, parce que lorsqu'on regarde, entre autres, au niveau député, son travail, quand on le regarde par rapport à d'autres députés, donc on a un livre là qui répertorie tout ça, eh bien, on se rend compte que... il a travaillé à de nombreuses lois, décrets ont été publiés, etc., et appliqués.
Et puis très intelligent, très vif. Donc c'était un petit peu, cette émission, c'était un petit peu aussi pour lui, peut-être un rire, mais un petit peu pour lui rendre hommage.
Oui, tout à fait.
Voilà. Bonsoir. Au revoir.